Hegel. Il faut se servir de Hegel aujourd'hui pour mieux comprendre. Hein. Hegel est arrivé à la confusion du devenir et de l'être parce qu'il est resté dans une intuition du vivant. Dans le vivant, l'être et le devenir fusionnent dans l'immanence. Toutes mes opérations vitales impliquent devenir et impliquent être. Eh bien, c'est à cause de ce regard premier sur le vivant que Hegel confond le devenir et l'être. Il faut donc mettre en troisième position le point de vue de l'âme. Et de voir que la fusion, de voir que ce qui est premier dans l'ordre de l'être n'est pas ce qui est premier dans l'ordre du vivant. Je crois que c'est ce que nous devons montrer aujourd'hui. Le dépassement de l'ousia au niveau du sujet, au niveau de la forme, au niveau de l'âme et au niveau de la fusis. Vous voyez, je retrouve une topique différente de celle d'Aristote. Mais une topique qui m'intéresse, qui est intéressante parce que, de fait, face à Hegel, c'est cela que je dois montrer. Qu'il y a un premier dans l'ordre de l'être, qui n'est pas le premier au niveau catégorial, il dépasse les catégories. Le premier dans l'ordre catégorial, c'est le sujet. Alors, comme on accepte les catégories, il faut montrer que le premier dans l'ordre de l'être n'est pas le premier dans l'ordre des catégories. Qui n'est pas le premier dans l'ordre de la forme, qui n'est pas le premier dans l'ordre de l'âme, dans l'ordre de la vie, et qui n'est pas le premier dans l'ordre de la phusis. Oui. Alors, je peux assez vite, ceci me prépare mon induction. Ça me prépare mon induction et ça m'aide pour mon induction ensuite. Donc, que le premier dans l'ordre de l'être ne soit pas le point de vue du sujet, c'est facile à comprendre. Parce que le sujet, dans sa fonction de sujet, implique une indétermination. Or, ce qui est premier dans l'ordre de l'être ne peut pas être indéterminé. Pourquoi ? Parce que ce qui est en puissance est toujours relatif à ce qui est en acte. Ça, je peux le dire ici, même si je n'ai pas encore fait la métaphysique de l'acte et de la puissance. C'est tout simplement dans le bon sens, c'est-à-dire l'expérience habituelle. Ce qui est en puissance n'est pas premier. Qui est en puissance est toujours relatif à l'autre. Seul ce qui est parfaitement déterminé est premier et indépendant. Donc le premier dans l'ordre de l'être ne peut pas être la substance, ne peut pas être le sujet. Le premier dans l'ordre de l'être ne peut pas être la forme. Parce que si la forme est première dans l'activité artistique, il y a quelque chose de plus radical que le point de vue de la forme artistique qui s'ajoute toujours à autre chose, qui s'ajoute à un sujet. Et donc la forme artistique est secondaire. Ce premier dans l'ordre de l'être ne peut pas être l'âme, alors là c'est plus difficile. C'est plus difficile et c'est important. De voir que le premier dans l'ordre de l'être ne peut pas être l'âme. Parce que le vivant n'est pas adéquat à ce qui existe, étant donné qu'il y a la mort. Le fait de la mort me montre que le premier dans l'ordre de l'être n'est pas le premier dans l'ordre du vivant. S'il y avait adéquation entre l'être et la vie, il n'y aurait jamais la mort. La mort montre qu'il y a une inadéquation entre le vivant et son existence. La mort, c'est la suppression de la vie, mais ce n'est pas l'annihilation. Un petit animal, quand il meurt, il perd sa vie, mais il n'est pas annihilé. Il y a le cadavre. C'est le résidu de la vie. Les retombées anatomiques de la vie, vous voyez, c'est le point de vue du petit cadavre. C'est ce qui reste. Mais au fond, ça montre bien qu'il n'y a pas identité entre l'être et le vivant. L'être et le vivant ne sont pas un. Autrement, il n'y aurait pas possibilité de la mort. Si vous identifiez être et vie, Un être dans lequel sa vie, c'est son être, il ne peut pas mourir. Tandis qu'un être dans lequel il y a une distinction entre son être et sa vie, ah, il peut y avoir la corruptibilité. Il peut y avoir le poids de l'être par rapport à la vie. Il entraîne au-delà de la vie. Il y a une dualité. Donc le premier dans l'ordre de l'être ne peut pas être le premier dans l'ordre du vivant, parce que je constate que dans toutes les réalités que je vois, il y a une distinction entre être et vie. Et alors, au point de vue de la phusis, je peux comprendre que le premier dans l'ordre de la phusis, donc le premier, je veux dire le premier, la phusis comme telle, qui est première dans l'ordre du devenir, n'est pas première dans l'ordre de l'être, puisque nous avons vu une distinction entre l'être et le devenir. Donc, ceci c'est pour déblayer le terrain. Nous déblayons le terrain. À partir de là, il s'agit de redécouvrir le point de vue de Lousia. À la différence d'Aristote, c'est que je dis qu'il faut me placer du côté de moi-même pour découvrir ce que c'est que la substance. Ça, je suis obligé d'être très farouche là-dessus. Ne recherchez pas la substance à partir d'une œuvre artistique. Vous ne la trouverez pas. J'ai toujours cité cet exemple d'un étudiant du soir qui faisait le cours sur la substance. Je le voyais avec sa feuille de papier. Elle dit, qu'est-ce que vous faites avec votre feuille de papier? Je cherche la substance. Elle dit, la cherchez surtout pas dans votre feuille de papier, vous ne la trouverez pas. La substance dans la feuille de papier. Oui. J'ai dit, regardez-vous et cherchez la substance. Donc regardons-nous, regardons l'homme et cherchons la substance. Partons de l'homme. C'est ça qui intéresse le philosophe. Hein. Et c'est ça qui intéresse avant tout le point de vue de la philosophie première. Si je fais de la philosophie première, c'est pour connaître ce que c'est que l'homme. Et donc, la substance, je la regarde par rapport à moi-même. Alors ici, je fais tout simplement cette constatation, qui est assez facile à faire, c'est que je suis en effet un être qui vit toutes les catégories. Toutes les catégories sont en moi. Et j'ai même la fonction de sujet. C'est moi qui suis intelligent. C'est moi qui est capable d'aimer. C'est moi qui est capable d'être en relation avec tous les autres. C'est moi qui pâtis. C'est moi qui agis. Et ainsi de suite. C'est moi qui suis. Donc je peux très bien faire ça. Je reprends toutes les catégories en comprenant que ces catégories me définissent. Définissent mes diverses modalités. Mes diverses manières d'être. Et cependant, toutes ces manières d'être sont unifiées en moi. Alors ici, je ne regarde plus le moi comme sujet, je le regarde comme source de toutes ces déterminations. C'est toute la différence. Et je peux, à partir de ce moment-là, dire, puisque toutes ces déterminations sont diverses, ce que je ne peux pas nier. Diversité de la relation, diversité de la qualité, diversité de la quantité, diversité de l'action et de la passion. Toutes ces qualités sont diverses. Et cependant, elles sont une. Leur diversité n'explique pas leur unité. Il faut donc nécessairement qu'il existe une source de toutes ces déterminations. Bon, c'est très simple, l'induction de la substance. C'est quand j'ai compris la diversité des déterminations et que je comprends qu'il y a quelque chose qui unifie tout cela. Il faut donc nécessairement qu'il y ait une source qui unifie. Oui, je saisis un ordre dans cette diversité. C'est là où j'explicite. Je saisis un ordre dans cette diversité. Tout ordre a une source qui fait comprendre comment, au-delà de la diversité, il y a l'unité. Oui, la substance me fait échapper à l'anarchie de la diversité des déterminations. S'il n'y avait pas la substance, je n'expliquerais pas mon unité. Mon unité fondamentale dans l'ordre de l'être. Mon unité radicale dans l'ordre de l'être. Il faut donc nécessairement poser une source de toutes ces déterminations, qui est au-delà de toutes ces déterminations. Elle ne peut pas s'identifier à la qualité, elle ne peut pas s'identifier à la quantité, parce que si elle s'identifiait à la qualité, elle ne serait plus source de la quantité. Elle ne peut pas s'identifier à la relation, Parce que si elle s'identifie à la relation, elle n'expliquerait pas comment elle peut être source de la qualité de la quantité, et ainsi de suite. Donc, il faut nécessairement poser une source au-delà de toute cette diversité. Cette source, je l'appelle l'ousia. Vous voyez ? C'est au fond relativement simple, une fois que je regarde l'homme. Parce que je suis obligé de regarder cette diversité de mes modalités. Vous voyez, c'est le problème des catégories. Mais le problème des catégories repris d'une autre manière, repris d'une manière, j'allais dire, existentielle. Toutes les catégories qui sont en moi, je les vois comme existant et provenant de quelque chose qui les unifie. Puisque c'est mon intelligence, c'est ma capacité d'aimer, ce sont mes relations, c'est ma manière d'agir sur quelqu'un, c'est ma manière de pâtir, et ainsi de suite. C'est moi. Mais c'est le moi, non pas conscient, mais c'est le moi source de toutes ces déterminations. Et le moi source de toutes ces déterminations, c'est bien ce qu'on appelle l'ousia, principe d'être. Principe selon la forme de ce qui est. Et je peux tout de suite dire principe selon la forme de ce qui est. Alors, une fois que l'induction, voyez comment, hein, c'est l'intention de découvrir ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. Si je n'ai pas cette intention de découvrir ce qui est premier dans l'ordre de l'être, je ne découvrirai jamais l'ousia. Il faut donc que mon intelligence soit ordonnée dans cette recherche. Qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être? Ça, c'est très important, parce que si l'interrogation n'existe pas, je ne découvrirai jamais rien du tout. Mais si l'interrogation existe, je constate la diversité des formes qui sont en moi, la diversité des déterminations qui sont en moi, et je peux, au-delà de cette diversité, découvrir qu'il y a une source, qu'il y a un principe, qu'il y a une cause, cause de toutes ces déterminations. Donc voyez, l'ousia est découverte, dévoilée, à partir de la diversité des déterminations et leur unité. Il n'y a pas moyen autrement. Je crois que c'est la seule manière. Je peux, une fois que j'ai fait cet effort, revenir sur une autre voie, le point de vue de l'âme. J'ai dit la substance n'est pas l'âme, mais il y a quand même une très grande parenté entre les deux. Si j'ai découvert, normalement, la philosophie du vivant a été faite avant la philosophie première, si j'ai découvert qu'il y a en moi une âme spirituelle, une âme tout court, c'est-à-dire une âme qui est source de toutes mes opérations vitales. Je peux, à partir de là, comprendre que mon âme, c'est ma substance. Pourquoi ? Parce que pour moi, ma vie, c'est mon être. Et si pour moi, ma vie, c'est mon être, je peux dire que mon âme, c'est ma substance. Vous voyez, ça, c'est un point de vue plus facile pour nous. Découvrir que nous avons une âme, je crois que nous pouvons tous le découvrir. C'est relativement assez facile, découvrir qu'il y a en nous nécessairement une âme source de toutes mes opérations vitales. Bon, une fois que j'ai découvert ça, je vois que mes opérations vitales, c'est mon être. C'est mon être, c'est-à-dire c'est ma manifestation, c'est ma manière d'exister. J'existe à travers toutes ces opérations vitales. Si donc mon âme est source de ces diverses opérations vitales, elle est donc source de mon être. Elle est donc ma substance. Mais j'ajoute tout de suite que la substance n'est pas mon âme. C'est que je vois bien qu'en moi il y a distinction entre être et vie. Si en moi il y a distinction entre être et vie, je ne peux pas dire que mon âme, qui est ma substance, soit la substance. Ou plus exactement, que la substance soit l'âme. La substance saisit quelque chose de plus radical dans l'âme. Elle saisit dans l'âme ce par quoi l'âme est source d'être. Mais c'est une voie d'accès. C'est une voie d'accès qui peut nous aider beaucoup dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que c'est plus facile de saisir la substance par l'âme que de saisir directement par les déterminations. C'est intéressant à voir, les deux. Je peux saisir encore une autre voie d'accès. La voie d'accès par le point de vue de l'amitié. Je donne ces accès exprès, parce que c'est important. Au fond, il n'y a qu'une seule induction. Mais pour moi, étant donné la difficulté qu'il y a de saisir l'ousia, on peut donner diverses voies. Mais ces voies, vous voyez, ne se tiennent pas les unes les autres. C'est la différence avec les voies d'accès par rapport à l'existence de Dieu. Ces voies sont différentes, tout simplement. Ça me pose le problème de l'ousia. Par rapport à l'amitié, le contact que j'ai avec mon ami se fait par l'amour. Et dans l'amour, j'aime mon ami comme un autre que moi. Et je l'aime plus que moi, normalement, si c'est mon ami, n'est-ce pas ? Je l'aime plus que moi. Je vois que mon amour que j'ai pour mon ami n'est cependant pas capable de lutter contre sa mort. Des choses terribles. Prenez pour l'époux et l'épouse, c'est effrayant. Quand l'époux s'aperçoit que l'amour qu'il a pour son épouse n'est pas capable de faire que son époux survive à la maladie. Il n'y a que le Christ qui peut faire ça. C'est toute la différence. Entre le Christ qui peut dire à Lazare, sors d'ici, tandis que Marthe et Marie avaient beau crier, Lazare ne sortait pas du sépulcre. Tandis que Jésus le dit. Vous voyez, c'est la différence. Ce qui nous montre bien la différence entre un amour d'amitié et un pouvoir divin sur l'être. De pouvoir ressusciter. Il faut avoir un pouvoir sur l'être pour ressusciter. L'amour ne suffit pas. Alors, une fois que je comprends que l'amour ne suffit pas, que mon amour, si fort qu'il soit, n'est pas victorieux de la mort. L'amour humain n'est pas victorieux de la mort. Si l'amour humain n'est pas victorieux de la mort, ceci me montre avec netteté qu'il y a quelque chose de plus radical que mon amour, qui est le point de vue de l'être. Et donc, s'il y a quelque chose de plus radical que mon amour, qui est le point de vue de l'être, je comprends que mon amour pour mon ami n'atteint pas sa substance. Et c'est négatif. C'est sûr que c'est négatif ici. Mais ça me montre simplement que mon amour n'atteint pas ce qu'il y a de substantiel en lui. Ça atteint ce qu'il y a de substantiel, mais ça n'atteint pas selon un mode substantiel. Ça l'atteint selon un mode intentionnel. Parce que ça atteint bien quelque chose de substantiel, autrement je ne souffrirais pas. Et quand je regarde une fleur et que j'aime une fleur, je ne souffre pas qu'elle se fane le lendemain. Un gosse fleur pour ça. Mais pas une grande personne. Et une grande personne ne pleure pas parce qu'il sait que c'est une fleur. Tandis qu'une grande personne pleure à la mort de son ami. Il ne pleure pas à la mort de la fleur. Le gosse pleure au dos. Parce qu'il ne fait pas la distinction entre les deux. Entre ce que représente l'amour à l'égard d'une personne, on touche quelque chose de substantiel, et l'amour d'une fleur, on ne touche pas quelque chose de substantiel. On touche tout simplement sa qualité. J'aime beaucoup cette fleur, je suis désolé qu'elle soit fanée. J'aurais voulu qu'elle dure. Je ne pleure pas à cause de ça. Si quelqu'un commençait à pleurer à cause de ça, on dirait qu'il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. Il est retombé dans un âge infantile. Alors il pleure parce que la fleur disparaît. Tandis qu'une grande personne fait la distinction entre les deux. L'amour du petit chien, c'est la même chose. Comme ça, c'est plus facile. La dégradation arrive plus facilement. Alors, on pleure parce que le chien est mort. Alors, le chien, il devait mourir, le chien. Et la personne, elle ne devait pas mourir parce qu'elle était mon amie. Et mon amour pour la personne enveloppait sa personne. Et donc, il ne devait pas mourir parce qu'elle est mon amie. Et c'est là où on voit très bien comment l'amour touche quelque chose de substantiel, mais n'a pas un mode substantiel. S'il avait un mode substantiel, il sauverait l'amour. Et donc je découvre qu'il y a quelque chose de plus radical que mon amour, qui est justement ce que j'appelle la substance. Mais mon amour n'atteint pas et ne peut pas sauver sa substance. Autrement, il n'y aurait pas de mort, mais ce serait l'assurance par rapport à la mort. C'est devenir l'ami de quelqu'un. Ce serait merveilleux, ça. Si tu es mon ami, tu ne mourras pas. C'est ce que dit Dieu, hein. Si tu es mon ami, tu ne mourras pas. C'est exactement ça. Mais alors, c'est le fait de dépasser le point de vue de la mort physique et de découvrir quelque chose de beaucoup plus spirituel. Mais c'est très important de comprendre ça, que seul l'amour divin atteint la substance. Et seul l'amour divin a un mode substantiel qui est au-delà de la mort. Tandis que mon amour n'est pas substantiel, et alors, par le fait même, il atteint quelque chose de substantiel, mais n'étant pas substantiel, il souffre de son impossibilité d'être garanti de la mort, d'aller au-delà de la mort. Donc voilà, voyez, l'induction de la substance, hein, l'induction de la substance saisit ce qu'il y a de premier dans mon être. Non pas au niveau de l'intentionnalité, mais dans mon être. Saisir ce noyau premier dans mon être. Ce qui est au-delà du sujet, au-delà de la forme, au-delà de l'amour, au-delà de l'âme, au-delà de la physis. Et au-delà de l'amour, je peux très bien ajouter. Au-delà de l'amour. Saisir ce qui est source de toutes les déterminations de moi-même. Vous y réfléchirez, puis on continuera demain. Il y a encore un peu demain. Oui, c'est... Oui. Sur l'addiction, sur le respect de Christ, à partir de là, il se situe... Ah oui, ça, c'est le point de vue d'Aristote. Mais je ne reprendrai pas, moi, aujourd'hui. Parce que, vous voyez, c'est très joli. C'est très grec. C'est trop grec pour nous. Hein? Ça, c'est le truc d'Aristote. Aristote dit... C'est très simple. C'est un titre d'exemple qui dit ça, hein. C'est pas le principe, c'est un titre d'exemple. Ba n'est ni B ni A. C'est évident. Quand vous dites B, vous ne dites pas bas. Quand vous dites A, vous ne dites pas bas. Donc Ba, c'est l'union de B et de A. Or, ni B ni A n'explique Ba. Il faut donc quelque chose qui soit au-delà de B et A, qui explique l'unité des deux. Alors, bas, exemple, le point de vue du vivant. L'âme et le corps. Le vivant, c'est l'âme et le corps. Ce n'est ni l'âme ni le corps. Il faut donc quelque chose qui est l'unité du corps et de l'âme. Au-delà du point de vue vivant, qui est source de cette unité. Et tout simplement pour expliquer, vous voyez, qu'il y a une source d'unité. Dès que vous êtes en face d'un ordre, il y a un ordre. Bon. Dès que vous êtes en face d'un ordre, les éléments de cet ordre n'expliquent pas l'ordre. Il faut donc expliquer une source de cet ordre.
Cinquième conférence.
Alors nous allons continuer ce que nous avions commencé à dire à propos de la substance, à propos de l'usia. On m'a demandé de revenir un instant sur le point de vue de l'induction. Il faut tout le temps y revenir. Et l'induction dans ce qu'elle a de plus subtil, si vous voulez, de plus abrupt. J'efface. Ajouter d'être de la terre et d'être de la mer. serpent du paradis, c'est la bête de la terre. Et le prolongement du serpent, c'est la bête de la mer. Et tous les deux animés par le même esprit. Satan, et tout s'achève dans la bête de la terre. C'est la Babylone, structure, ça. Nous allons essayer de reprendre le jugement d'existence, ceci est. L'interrogation après l'admiration. L'interrogation, qu'est-ce l'être? Et nous revenons pour résoudre à ceci. Ça, c'est le schéma le plus simple. Et ceci a l'avantage que ça nous permet de mieux comprendre l'exemple d'Aristote bas. On ne recherche, dit Aristote, que ce qui implique une complexité. Il y a une complexité dans ceci est, comme il y a une complexité dans le pas. Et si je veux comprendre ceci est du point de vue de l'être, c'est-à-dire dans son unité propre, je peux dire que pas ni B ni A, et je peux dire ceci est n'est ni ceci ni est. Il faut donc aller au-delà du ceci et de est pour découvrir le principe d'unité. Et ce principe d'unité, c'est l'ousia. Alors, j'explique un peu. Et ça, c'est l'épure la plus parfaite. Il faut toujours tendre vers l'épure la plus parfaite, pas seulement en mathématiques, mais même en philosophie. Et c'est vrai, c'est l'épure la plus parfaite. Je crois qu'on ne peut pas avoir quelque chose de plus simple, de plus... Alors, le ceci, évidemment, prenez-le, le sujet est très fort, l'homme. Ceci est, j'existe, je suis. Alors, comprenons bien. Il faut donc arriver à comprendre ce qui fait l'unité du ceci est, du je suis. Le ceci, c'est le point de vue du sujet. Donc, c'est la substance première au niveau catégorique. Le est est au-delà des catégories. Donc, je suis en présence de deux transcatégories, celui du sujet et celui du verbe. On est aussi transcatégorie. Le ceci est, dans le jugement d'existence, nous met tout de suite au-delà des catégories. La substance première, le todeti, est au-delà des catégories, nous savons bien. C'est le sujet premier, au-delà des catégories, et le verbe être est au-delà des catégories. Puisque de fait, il est présent à toutes les catégories. Pierre est intelligent, Pierre est grand, Pierre est capable de donner un coup de poing au voisin, Pierre est passif, et ainsi de suite, tout, toujours. Donc, est au-delà des catégories. Vous avez donc, dans cette proposition, ceci est, deux aspects trans-catégories. Il faut aller encore au-delà pour découvrir la source de l'unité. Et la source de l'unité est au-delà du sujet, au-delà du verbe être, c'est l'ousia. Il faut bien trouver le point de vue de l'unité. Qu'est-ce qui fait l'unité du ceci-est? Il y a quelque chose qui fait l'unité du ceci-est. Quelque chose dans l'ordre de l'être, puisque ceci-est fait une unité dans l'ordre de l'être. Et est présent dans le ceci, et le ceci est présent dans l'être. Donc ça ne peut pas être une unité dans l'ordre des un au-delà des déterminations, puisque et nous met déjà au-delà des déterminations, et le ceci nous met au-delà des déterminations. Donc c'est un au-delà dans l'ordre de l'être qui est source. Et cette source, c'est l'ousia. Vous voyez, comme le langage est porteur de la métaphysique. Parce que c'est vrai, quand vous prenez le jugement d'existence ceci est, vous n'y pensez pas, mais si vous réfléchissez sur le ceci est, mais est impliqué dedans, nécessairement la source de cette unité, il y a une source de l'unité, puisque vous dites ceci est, ça fait l'unité. Et pourtant le ceci n'explique pas l'unité, puisque c'est le sujet. Et n'explique pas l'unité. Il faut donc quelque chose qui est plus radical et qui explique l'unité. Et qui fait l'unité, c'est vous y a. Oui. C'est très très simple, puisque là, alors, l'exemple d'Aristote le bat parfaitement. Mais vous pouvez, ce que j'ai dit hier, vous ai donné des voies plus, peut-être plus faciles à saisir. Là, c'est abrupt. Mais c'est toujours très intéressant de voir le caractère très abrupt, ultime, dernier. Il ne faut peut-être pas donner ça en premier lieu, parce qu'on perd l'effet là, n'est-ce pas? Mais quand, une fois qu'on a fait plusieurs fois, on se dit, ah, mais c'est vrai. Alors ça, l'avantage que tout ce qui existe, du fait même qu'il existe, implique une substance. Alors ça, c'est le gros problème. Si nous avons le temps, nous y reviendrons. Est-ce que partout où il y a fusis, y a-t-il substance, hein? Ça, c'est un très gros problème. Je ne le traite pas maintenant, mais évidemment, quand je dis ceci est, je peux dire cette table existe. Alors, y a-t-il une substance? Il n'y a pas de substance de la table. Vous voyez? Et c'est pour ça que c'est très abrupt. Ça me dit que nécessairement il y a une ousia, mais je ne dis pas où. Principe, elle est immanente évidemment à la table. Elle est du côté du ceci. Elle n'est pas du côté de la forme de la table. Vous voyez? Quand je prends un caillou, je dis il existe. Cette pierre existe. Mais quelle est la substance de cette pierre? C'est très difficile de le savoir. Vous voyez? Mais évidemment, comme est pur, c'est très très net et très simple. Bon. Une fois que je découvre l'ousia comme principe immanent, principe et cause immanente, selon la forme, donc au-delà de la forme, mais selon la forme, de ce qui est. Je me pose la question, mais qu'est-ce que c'est que cette ousia? Je la découvre. J'ai posé la question, qu'est-ce que c'est que l'ousia? Mais je réfléchis sur ce que je peux dire sur cette ousia. Alors, je vais réfléchir sur ce que je peux dire sur cette ousia. Ah, je peux tout de suite réfléchir sur ce que nous avions vu précédemment. Que l'ousia, dès que je la découvre comme premier principe dans l'ordre de l'être, et toutes les autres déterminations apparaissent comme secondaires. Toutes les autres déterminations qui se manifestent. Donc toutes les autres déterminations catégoriales sont secondaires. Sauf la substance seconde. Ah, alors là, c'est ça qui est important à saisir. Quelle relation entre l'ousia et la substance seconde? La substance seconde au niveau catégorie. La substance seconde est présente dans cette ousia. C'est sûr, c'est pas quelque chose de distinct. Alors, la substance seconde va nous permettre de comprendre comment l'ousia est principe d'intelligibilité. Puisque l'ousia seconde, c'est homme. Or, homme, c'est ce qui se définit. C'est ce qui a l'intelligibilité la plus grande. Homme a quelque chose de plus intelligible que le point de vue de la quantité et de la qualité. Le taux M et Nan de homme est quelque chose de primordial. L'homme a son intelligibilité propre et indivisible. C'est pour ça qu'on comprend ou on ne comprend pas. C'est quelque chose d'indivisible. Je ne peux pas diviser l'homme en disant je vais prendre une partie de l'homme. Non. Il y a quelque chose d'indivisible. Donc il est principe d'intelligibilité. Et je vois bien, quand je vois la relation qui existe entre ousia, j'ai vu le dépassement de l'ousia première. Maintenant, ayant découvert cet ousia principe, je dis, l'ousia est première dans l'ordre de l'être. Si elle est première dans l'ordre de l'être, elle est donc source de toute intelligibilité. Puisque ce qui est premier dans l'ordre de l'être est nécessairement source de toute intelligibilité. L'être est par lui-même intelligible. Il ne faut pas l'oublier. L'intelligibilité est une propriété de l'être. Ce n'est pas l'être, mais c'est une propriété de l'être. C'est pour ça que l'ousia que je découvre, cette substance que je découvre, n'est pas la substance seconde. Mais la substance seconde provient de cette ousia. Et donc, je comprends que la substance seconde thématise en quelque sorte ce qui est conclu radicalement dans l'ousia. L'ousia est source de toute intelligibilité. Oui, c'est intéressant à voir ça, parce que ça nous aide à comprendre. Il faut bien, les catégories sont données comme un aspect pré-philosophique. Bon, nous pouvons tous comprendre les catégories d'Aristote, hein, sans être très philosophe, on peut comprendre. Et chercher, vous ne trouverez pas de changement. Là, ça n'a pas changé. La physique et le Decello d'Aristote ont changé, mais les catégories n'ont pas changé. Chercher, je dis toujours ça aux étudiants, et depuis que je le dis, aucun étudiant ne m'a donné une nouvelle catégorie. Essayez de trouver une nouvelle catégorie. Si vous la trouvez, c'est très intéressant. Ça m'intéresserait beaucoup. Si vous, dans votre cogitation, vous arrivez à découvrir une nouvelle catégorie, une catégorie qui n'est pas dans les 10 catégories d'Aristote, ce serait très curieux. Je sais très bien que dans la dernière catégorie d'Aristote, l'habitus, on peut fourrer des tas de choses dedans. N'est-ce pas ? Alors là, on pourrait mettre des subdivisions. Toutes les catégories impliquent des subdivisions, parce qu'il y a 4 qualités. Donc il y a des subdivisions. Il y a 2 quantités. Il y a des subdivisions. Mais c'est toujours la quantité, c'est toujours la qualité. Et le dernier, le fourre-tout, le dernier, l'habitus, n'est-ce pas ? Au fond, c'est ma manière particulière d'user des choses. Vous voyez, c'est là où je comprends ce que c'est que quand j'use de quelque chose, j'ai un certain droit de propriété sur cette chose. Et que le droit de propriété naît de l'usage. C'est l'usage que j'ai. J'ai une propriété quand j'use d'une chose. Quelqu'un qui n'use pas d'une chose, ben, sa propriété, son droit de propriété tend à disparaître. Et c'est vrai, ça. Au fond, si on était tout à fait loyal, on n'aurait droit de propriété que sur ce dont on use. Et tout ce que l'on n'use pas, bien, c'est en dehors. C'est en dehors, c'est manger sur le voisin. Mais c'est pas directement. Et ça, c'est la dernière catégorie, l'habitus. C'est très intéressant à ce point de vue-là. Alors, les 10 catégories nous montrent les 10 modalités de la réalité. Et les 10 catégories sont toujours au niveau descriptif. Donc, les 10 catégories nous montrent comment chacun d'entre nous, puisque les 10 catégories ne sont parfaitement vraies que pour l'homme, puisque la 10e catégorie n'est vraie que pour l'homme. Ce n'est pas vrai pour le petit animal. Le petit animal, on peut lui mettre un vêtement, mais il ne le met pas naturellement par lui-même. N'est-ce pas ? Je peux mettre un petit habit à un singe, je peux mettre un petit habit à un chien, mais au fond, ce petit habit, c'est extrinsèque au chien. Pratiquement, le chien n'en use pas. Il peut le déchirer, mais il n'en use pas. Il n'a aucune propriété dessus. C'est celui qui dresse le chien qui a un droit de propriété sur lui. C'est très curieux, ces choses-là. Mais c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. L'animal n'a pas de droit de propriété parce qu'il n'a pas d'usage. Il fait des simili-usages. Quand vous voyez un singe qui se sert d'un bâton pour faire tomber un fruit, bon, c'est pas l'usage du bâton. Il imite. Il copie. Mais il n'use pas. Tandis que l'homme use d'un crayon, use d'un porte-plume, use d'un habit. Il en use. C'est extrêmement curieux, ça. Et il use de ce qui vient s'ajouter. Et donc, ça le modifie comme tel. Ça le modifie. Ça transforme sa physionomie, ça transforme son être par l'usage qu'il fait des choses.
Et alors, l'usage qu'il fait des choses amplifie son être. Hein. Il lui donne une dimension nouvelle. Mais c'est toujours la même chose, c'est la catégorie fondamentale de l'usage. Je suis capable d'user d'une chose. J'use des quantités de choses hein, dans la réalité. C'est autre chose que la relation. Hein. Les relations sont autre chose que l'usage. L'usage, c'est ce qui va me transformer. Donc, les 10 catégories sont pré-philosophiques. C'est pré-philosophique, les 10 catégories. C'est le premier regard que c'est sur la réalité, et je décris. Puisque n'est philosophique que quand je saisis un principe. Alors, les catégories me conduisent au principe, mais ne me donnent pas le principe. Et alors, je dois comprendre la source de l'intelligibilité des 10 catégories. Quelle est la source de l'intelligibilité des 10 catégories? C'est l'ousia. L'ousia n'est pas la forme, mais l'ousia est source de toutes les formes. Et elle est source de cette première forme qui est l'homme, qui est l'animal, qui est le singe, qui est le chat, peu importe, hein, tous. Elle est source de la substance seconde. Alors, quel est le rapport entre l'ousia et la substance seconde? Vous voyez, ça c'est intéressant comme réflexion. Une fois que j'ai découvert l'ousia comme première dans l'ordre de l'être, je me pose la question, qu'est-ce qu'elle est par rapport à l'intelligible? Puisque les catégories me donnent toutes les quiddités, toutes les modalités d'intelligible de la chose, toutes les formes, toutes les déterminations que je saisis. Quel est le lien entre cette ousia et la substance seconde? Comme elle est source, comme elle est principe d'être, elle est source d'intelligibilité. Je ne dis pas qu'elle est source de l'être. Elle est cause, elle est donc un peu source, c'est sûr, elle est source de l'être, mais en comprenant bien, elle est source d'intelligibilité, c'est-à-dire que la substance seconde n'est pas, au sens strict, attribuée à l'ousia, mais elle exprime et elle manifeste l'intelligibilité. Alors là, c'est là où vous voyez tout de suite hein, que vous avez deux manières de définir l'homme. Si je regarde l'ousia de l'homme, parce que c'est celle-là que je décris en premier lieu. J'ai une première définition de l'homme, la classique, animal raisonnable. Et puis, la seconde définition de l'homme, c'est dire que l'homme est une substance, dans l'ordre de l'être. Alors, quand je dis que l'homme est un animal raisonnable, je définis l'homme logiquement. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est que l'homme quand je dis animal raisonnable. C'est une définition logique. Je classe l'homme parmi les animaux. Classer l'homme parmi les animaux, c'est pas connaître l'homme. C'est évident. Quand vous appuyez sur les animaux pour connaître l'homme, vous ne connaissez pas grand-chose de l'homme. Et vous dites rationnel pour lui montrer qu'il a une tête de plus que les autres animaux. Il marche droit. Il est vertical tandis que les animaux sont horizontaux. Voilà ce que vous dites, mais au fond, vous le définissez en fonction des autres animaux. Donc, vous classez, vous situez l'homme, mais vous ne le définissez pas. Vous le définissez logiquement, par genre et différence spécifique. Mais définir quelque chose par genre et différence spécifique, ce n'est pas philosophique, c'est logique. C'est uniquement une méthode de classification. Si vous voulez connaître l'homme d'une manière philosophique, vous dites « l'homme est une substance ». Alors là, vous connaissez quelque chose de l'homme. Vous voyez qu'il y a dans l'homme un principe d'autonomie. Et ça, c'est important. Il a un principe d'autonomie dans son être et dans son intelligibilité. L'homme est source d'intelligibilité en lui-même. Il est quelque chose qui me permet de connaître les autres déterminations. Et c'est vrai. C'est l'homme qui est substance, il est substance, donc il est source d'intelligibilité. Vous voyez, j'ai deux définitions de l'homme. Dès que je découvre l'ousia, je peux immédiatement voir que l'homme qui se définit animal raisonnable, la plupart du temps reste là-dessus, on dépasse la logique.
et on voit que l'homme est une substance. Alors vous allez me dire, quand je dis que l'homme est une substance, je dis rien du tout de l'homme. Oui, vous dites quelque chose de fondamental de l'homme. C'est le premier moment vers la personne. Je ne définis pas encore tout l'homme, puisque la saisie de l'ousia n'est qu'un aspect de l'être. Mais je définis quelque chose de fondamental. Je définis que l'homme, s'il n'est pas autonome dans son être, ce n'est pas un homme. Il a une autonomie dans l'ordre de l'être. Pas une autonomie dans l'ordre de la conscience. Oui, c'est ça qui est important. Tandis que quand je définis animal raisonnable, vous comprenez très bien, je pourrais dire, ah mais l'homme, alors, s'il n'est pas raisonnable, s'il n'a pas conscience, il n'est pas un homme. Vous voyez comment la logique peut très bien conduire à ça. Et donc dire, l'homme se définit par la conscience. Pas du tout, l'homme ne se définit pas par la conscience. L'homme se définit radicalement par la substance. Ce qui est très important, ça. Il se définit radicalement et en premier lieu par la substance, c'est-à-dire un principe d'autonomie. Bon, je vois que l'ousia est donc premièrement source d'intelligibilité et fait comprendre le point de vue de la substance seconde. L'ousia me fait comprendre toutes les autres déterminations, les 9 autres déterminations. Autrement dit, les 9 autres déterminations qui sont la quantité, je les énumère hein, pour que vous rappelez, la quantité, la qualité, la relation, la passion, l'action, on a déjà pas mal, le temps, le lieu, le situs et l'habitus. Alors comme ça, vous les avez. Neuf. Bien, la substance est source de toutes ces intelligibilités. Ça, c'est très curieux. Elle est vraiment principe d'intelligibilité, source d'intelligibilité. Alors, comprenons bien, là, il y a un petit problème très délicat. Hein. Quand je dis qu'elle est source d'intelligibilité, alors, ça veut dire que la quantité n'a pas d'intelligibilité propre. Pas du tout. Elle est source radicale d'intelligibilité. La quantité a sa propre quidité. La qualité a sa propre quidité. Je peux définir la quantité, je peux définir. Pourquoi ? Parce que chacune de ces catégories ont une forme particulière. Et donc, parce qu'ils ont chacune une forme particulière, ils ont leur propre intelligibilité. Je peux me demander, qu'est-ce que c'est que la quantité ?